Bonjour, c'est Claude Garceau. Bienvenue à cette deuxième partie de notre entrevue avec Thierry Godette sur l'exercice et les recommandations de l'ADA en 2024. Alors, bonjour Thierry. Quelles sont les recommandations de l'ADA concernant l'évaluation chez le diabétique avant la prescription d'exercice?
Bien, l'ADA ne propose pas vraiment d'évaluation mandatoire, là, par exemple, par tapis roulant avant une prescription d'exercice. Mais tout de même, il faut rechercher chez le patient la présence, par exemple, d'angine typique ou même atypique, parce qu'on sait qu'il y a à peu près 30 % des personnes atteintes de diabète là, qui ont de l'ischémie silencieuse. Donc, comment qu'on pourrait le voir? C'est qu'on peut voir la personne là, qui a un effort normal et soudainement plus essoufflé assez rapidement. Alors, détecter ces symptômes-là, s'ils sont présents, là, on dirige la personne vers une évaluation en présence là, d'un cardiologue où on pousse la personne avec une épreuve d'effort maximale. Aussi, il faut s'assurer d'un contrôle adéquat au niveau de la tension artérielle, l'absence de rétinopathie proliférative, par exemple, ou au niveau périphérique, là, plus au niveau du pied de Charcot. Nous, dans notre pratique à l'UCPQ, au PPMC, notre objectif global, c'est sûr, c'est d'augmenter la capacité, on l'a vu par ses bénéfices dans la première partie, mais ça nous permet à ce moment-là de vouloir mieux objectiver qu'est-ce qu'on l'on fait. Et dans la mission du centre de prévention du PPMC, nous faisons subir une épreuve d'effort en prévention à notre clientèle diabétique, vu de faire des programmes d'entraînement qui seront mieux adaptés, individualisés et sécuritaires. Mais si on parlait, par exemple, en général, si toute personne qui voulait faire l'exercice qui est atteinte de diabète devait passer une épreuve d'effort, ce serait irréaliste de faire passer tout le monde en cardiologie pour réaliser de l'exercice. Là.
Maintenant, encore un autre sujet qui mériterait des développements plus importants, puis on va peut-être se pencher là-dessus dans les prochains mois. Mais chez les patients qui prennent de l'insuline ou des sécrètes à gogue, il faut éviter quand même l'hypoglycémie. Que nous conseille l'ADA à ce sujet, puis quelles sont vos recommandations d'experts?
Bien, d'abord, comme vous l'avez dit, le risque d'hypoglycémie à l'exercice, ça concerne que les personnes traitées au sulfonylurée ou à l'insuline. Donc, il faut éviter de donner des conseils d'hypoglycémie reliés à l'exercice aux personnes qui sont non concernées, là, parce que ça ajoute franchement une barrière à l'exercice. Par contre, là, pour les personnes atteintes de type 2 qui sont traités aux sécrétagogues d'insuline ou même à l'insuline basale. Ce qui est suggéré par l'ADA, c'est avant d'entreprendre un exercice de type aérobie, par exemple, pour une période un peu prolongée, là, pas 5 minutes, mais un 20-30 minutes, comme on le spécifiait tout à l'heure, ce serait de prendre la glycémie pré-exercice. Une glycémie pré-exercice de 5 millimoles ou inférieure est considérée à risque de faire une hypoglycémie pendant la période d'exercice. Donc, il faudra à ce moment-là prendre un apport glucidique. Donc, la limite ici pour la personne atteinte de type 2, c'est être en bas de 5. L'apport glucidique, là, c'est pas une grande charge de glucose, souvent un 15 grammes de glucides. Absorption rapide, là, on parle de sucre dans de l'eau, un demi-jus avec de l'eau en plus pour diluer un peu la concentration de glucose. Donc, ça s'absorbe vite, ça fait monter la glycémie rapidement pour débuter la séance d'exercice. C'est ce qu'on vise. Pour les personnes traitées à l'insuline, vraiment là, prandiale et basale, ou même les porteurs de pompe, là, il y a beaucoup de stratégies qui s'appliquent. Donc, si on simplifie, là, en général, bien, c'est préférable de diminuer l'insuline prandiale si l'exercice doit être réalisé dans l'heure suivant le repas. Donc, il est suggéré de prendre la glycémie pré-exercice aussi chez cette clientèle, mais de viser une glycémie un peu plus haute là, que chez la personne atteinte de type 2, donc plus entre 7 et 10 millimoles par litre. Si on est inférieur à 7, consommer des glucoses rapides. Si on est supérieur à 10, ce serait à ce moment-là intéressant de prendre de l'eau, de bien s'hydrater et savoir aussi pourquoi on se retrouve au-dessus de 10. Est-ce que j'ai oublié de prendre ma dose d'insuline, par exemple? Ces grandes recommandations-là, la glycémie pré-exercice devrait un peu nous guider et avec la surveillance maintenant de la glycémie en continu, on est capable de mieux voir si pendant notre séance, là, on était parti pour avoir une tendance plutôt à la baisse ou vers la hausse. Et si la tendance est plutôt vers la baisse, bien, à ce moment-là, de corriger au fil de mon exercice avec de petites quantités de glucose et éviter de prendre une grosse charge de glucose tout d'un coup.
Je vous conseille donc de parfaire vos connaissances parce qu'on a fait vraiment un survol. Alors, que nous dit l'ADA pour la rétinopathie face à l'exercice, les patients qui ont des rétinopathies avancées?
En présence là, de rétinopathie, ce n'est pas été démontré que l'exercice comme tel, régulier, de moyenne intensité, va faire progresser la rétinopathie. Par contre, des exercices plus violents, de haute intensité, de musculation en faisant du valsalva ou d'exercices avec la tête vers le bas, ça, ce serait plutôt évité en présence de rétinopathie.
Maintenant, en présence de neuropathie, je parle de diminution de la sensibilité du pied, est-ce que faire de l'exercice, c'est dangereux pour le pied?
Bien, non, contrairement aux idées préconçues, hein, on était un grand bout de temps à dire « marchez pas, on fait des exercices en piscine simplement », mais non, l'exercice de marche là, n'augmente pas le risque là, d'ulcération, de récidive de l'ulcère. Malgré tout, il faut s'assurer qu'une personne qui aurait, par exemple, une baisse de sensibilité dans les pieds a une bonne biomécanique, là, si on lui demande de marcher, un bon équilibre. Alors, tout ça sera à vérifier et bien sûr, de s'assurer que la personne a une bonne hygiène des pieds, donc remarque à la fin de son exercice si elle n'a pas de blessures et s'assure d'avoir des chaussures confortables et un bas aussi qui lui ne soumet pas un stress la peau qui pourrait créer des ampoules ou des blessures qui seraient à ce moment-là, qui guériraient plus difficilement. Là.
Peut-être comme éditeur en chef, je dirais que pour le pied de Charcot, là, ça prend peut-être une expertise supplémentaire pour être sûr que le pied est stable, qu'il n'est pas en phase active d'inflammation. Mais ça devient une référence en spécialité, je crois. Maintenant, la prescription d'exercice chez nos neuropathiques souvent atteints de neuropathie autonome est particulière.
Ben oui, là, un patient avec une neuropathie autonome, par exemple, qui peut créer comme l'hypotension orthostatique, il y a plus de risques aussi d'hypertension, mais d'hypotension après l'exercice ou à l'exercice. Il y a aussi chez ces patients, des fois, mauvaise thermorégulation. Alors, dans des journées plus chaudes, c'est des personnes qui seraient plus à risque aussi de faire des hypoglycémies plus difficiles à corriger ou qui seraient présentes après l'exercice ou même pendant la séance. Donc, tout ça nous fait dire que la situation d'exercice chez les patients atteints de neuropathie autonome pourrait rendre la séance plus dangereuse. Donc, à ce moment-là, une bonne évaluation de la neuropathie autonome est importante, mais aussi de l'encadrement à l'exercice. Et je vous dirais, la période où on commence notre exercice, qu'on se met en action, d'y aller très tranquillement dans les premières minutes de notre marche, de notre vélo, ce qu'on appelle l'échauffement. C'est ce qui est important chez les patients qui sont atteints d'une neuropathie autonome. Commencer lentement, finir lentement la partie aérobie.
Alors, merci à Thierry Godette. Voici ce qui conclut notre balado. Et je remercie Thierry pour sa grande expertise. Je vous convie à nos deux prochains balados qui porteront sur d'autres recommandations de l'ADA du chapitre 5 concernant les changements des habitudes de vie du diabétique. Nous aborderons la cession tabagique, l'autoprise en soins par le diabétique, le suivi intégré interprofessionnel, le suivi des problèmes psychologiques, anxiété, dépression, santé mentale, dépistage des troubles cognitifs et de la santé du sommeil. Nous aborderons ensuite le volet nutrition et les troubles alimentaires chez le diabétique. Je vous rappelle que cette série de balados est une réalisation de la plateforme cœur-poumon avec un S.ca et que des formations supplémentaires et plus complètes sur l'exercice et la diabète seront disponibles sur cette plateforme. Merci de votre écoute attentive.